L'UFC Que Choisir, à votre service. Une émission mensuelle d'information pour les consommateurs.
Alors, l'UFC Que Choisir, c'est
non,
une association
c'est
de consommateurs.
Et c'est pour ça qu'au niveau de l'UFC Que Choisir,
alors,
au niveau
généralement, ces arnaques se déroulent de la façon suivante. Nous, ce que l'on constate à travers les litiges...
Et on parle aujourd'hui de la téléphonie mobile.
L'UFC Que Choisir, à votre service.
Les mardis à 17h, mercredi 13h30, jeudi 13h30.
Tous les litiges...
L'offre illimitée n'existe pas. Il y a toujours des limites.
Agence de voyage, banque, relations locataires... propriétaires, etc., etc.
L'UFC Que Choisir, à votre service, sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'émission UFC Que Choisir à votre service, votre rendez-vous mensuel qui vous aide à y voir plus clair dans vos choix de consommation du quotidien. Nous recevons comme chaque mois Philippe Fleuret qui est président de l'association UFC Que Choisir Versailles et sa région. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors le lundi 4 février dernier, l'UFC Que Choisir a lancé la contribution des consommateurs, une liste de 12 propositions pour augmenter de 9 milliards d'euros le pouvoir d'achat des Français, ce qui fait une moyenne de 320 euros par ménage. Ces propositions ont été faite dans le cadre du grand débat national lancé suite au mouvement des Gilets jaunes. Alors Philippe Fleuret, d'abord, pourquoi l'UFC a-t-il décidé de s'impliquer dans ce débat-là, dans ce grand débat national ?
Alors, nous sommes engagés dans ce grand débat parce que bon, l'UFC Que Choisir, c'est l'association de consommateurs la plus importante en France. Et donc, nous avions déjà pris position au niveau de la consommation et donc le pouvoir d'achat sur plusieurs points. Et donc, nous avons voulu profiter de ce grand débat pour faire valoir nos points de vue.
Et pourquoi le pouvoir d'achat particulièrement ? On peut dire que c'était une revendication peut-être aussi.
Alors, le pouvoir d'achat, il y a deux éléments. Il y a les recettes, c'est-à-dire les salaires, le montant des retraites et puis aussi les dépenses. Et donc, nous, on pense qu'on peut, consommer mieux ou aussi bien en payant moins cher.
Alors l'UFC Que Choisir, donc vous êtes réunis en interne et puis vous avez pour la méthodologie vous avez sélectionné 6 thèmes principaux, c'est ça ?
Oui, c'est cela, oui. C'est-à-dire que bon, il y a déjà des thèmes qu'on défend déjà depuis très nombreuses années à travers différentes pétitions ou interventions auprès des pouvoirs publics. Mmh. Et donc là, on a regroupé ces thèmes, on les a ordonnés, on les a classés, on les a évalués pour voir le montant que ça, on pouvait récupérer. Et donc c'est ces thèmes-là qu'on présente aux Français.
Donc alimentation, santé, banque,
transport. Banque, environnement, oui.
Alors, vous invitez donc les consommateurs à signer la contribution et à sélectionner les 3 propositions qu'ils ou elles jugent les plus importantes pour eux, sur les 12 que vous faites.
Parmi les 12, oui.
Alors, on va faire un petit tour d'horizon de ces 12 propositions. On va commencer avec l'alimentation. Vous avez 2 propositions donc sur l'alimentation, notamment sur la répercussion des baisses des cours des matières agricoles sur les prix alimentaires, et puis une autre sur les annulations des augmentations qui étaient prévues pour le 1er février. Pouvez-vous nous détailler ces 2 propositions ?
Oui, alors sur le premier point... Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une répercussion de la baisse des cours des matières premières. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque le prix du lait baisse auprès des producteurs de lait, ce qu'on demande, c'est que la grande distribution répercute ces baisses auprès des consommateurs.
Ce qui Vous voulez dire que ce n'est pas le cas, là, pour l'instant ?
Non, c'est pas le cas. Et puis, il n'y a pas obligation. Nous, ce qu'on demande, c'est que la grande distribution soit obligée de répercuter ces baisses, comme ça existe dans d'autres secteurs de l'alimentation, comme pour les fruits et légumes, par exemple. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, ce serait un vrai bénéfice pour les consommateurs. Et puis, une deuxième chose que l'on demande, c'est la loi de l'an passé, qui est entrée en vigueur au 1er février. Donc, la presse
la
et
loi
les médias,
agriculture alimentation.
Voilà, on en parlait abondamment. Et donc, tous les produits d'appel au niveau de la grande distribution, comme par exemple je vais citer certaines choses.
Plusieurs marques, c'est pas grave.
Voilà. Le Nutella, des marques président, le Coca, le Pastis, des produits que tout le monde achète, hein.
Qu'on appelle des produits d'appel.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils permettent à la grande distribution de faire jouer la concurrence et donc d'attirer des consommateurs. Donc jusque-là, la grande distribution n'était pas obligée de prendre des marges sur ses produits. C'était libre. Et de fait, il y avait très peu de marge, très très peu. Et là, avec cette loi, donc maintenant, la grande distribution est obligée de mettre 10% de marge, c'est-à-dire pour un produit qu'elle achète, elle, auprès de ses fournisseurs, 1 euro, par exemple, elle va le vendre 1,10 euro. Alors pourquoi cela ? On nous dit, oui, parce que ça permettra de restituer donc ces gains aux producteurs et aux agriculteurs, notamment aux agriculteurs. Dans la pratique, nous on dit, sur le Coca, sur le Pastis, sur le Nutella, qu'est-ce qui revient aux agriculteurs ? Ce sont des produits qui ne viennent pas de l'agriculture française. Donc on ne voit pas très bien, bon, ça n'a aucun sens. Et par contre, ce que l'on voit, c'est que les produits ont déjà augmenté au détriment des consommateurs et du pouvoir d'achat des consommateurs. Donc on demande purement et simplement la suppression de cette loi.
Alors c'est des lois qui sont directement liées aux grands distributeurs, donc aux grands commerces.
Essentiellement,
il y a quelques chances de voir ces propositions aboutir. Parce que vous nous dites, c'est qu'on compte sur les grandes enseignes pour redistribuer l'argent aux agriculteurs, indirectement en fait.
Oui, indirectement, mais...
On augmente le coca, peut-être qu'on va baisser le prix du paquet de pâtes.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas obligation, c'est ça le problème. S'il y avait une obligation, un engagement, on pourrait dire, ok, il y a un engagement, mais là, non, il n'y a pas d'engagement.
Alors ça, c'est pour la partie alimentation, il y a une partie également écologie sur laquelle vous faites deux propositions, notamment sur le principe pollueur-payeur et sur également les aides à la rénovation énergétique.
Oui, alors... Le principe pollueur-payeur, c'est dans la loi, depuis déjà de nombreuses années. La loi dit que celui qui pollue doit payer la dépollution de l'eau potable. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est l'agriculture qui essentiellement est à l'origine de la pollution des nappes phréatiques à cause des engrais, des pesticides.
Plus de 80%.
Oui, plus de 80%. C'est lié au type d'agriculture qu'on a en France. Il ne faut pas non plus incriminer les agriculteurs parce que ça se fait comme ça. C'est pas eux personnellement, c'est eux qui cultivent, mais c'est dans un cadre plus général. Ça, c'est le premier point. Et donc, ce sont les Français, tous les consommateurs, qui paient la dépollution à travers leur facture d'eau. Il suffit de consulter une facture, on s'aperçoit qu'à hauteur de 80%, ce sont les consommateurs qui payent. Donc nous, on demande que ce soit réellement les pollueurs qui payent. Ceci dit, c'est complexe, malgré tout, parce que ça entraîne un changement dans les modes de production agricole, ça c'est sûr. Mais ça peut être fait sur le temps, donc on peut en parler, alors que là, c'est toujours un non catégorique.
Et puis la deuxième chose, c'est l'aide à la rénovation énergétique.
L'aide à la rénovation, oui. Alors jusqu'à
quand on veut isoler, par exemple, une maison
par exemple, ou un appartement. Jusqu'à présent, en principe, les aides fiscales ou financières sont accordées pour des produits particuliers, par exemple pour le remplacement des fenêtres, sans se soucier vraiment de l'efficacité. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on s'interroge sur l'efficacité des équipements que l'on prend pour diminuer les pertes de chaleur. Et cela, ça passe par exemple par une étude plus approfondie et puis qu'on commence par exemple par isoler la toiture plutôt que de faire les fenêtres. Mais les coûts ne sont pas les mêmes, s'il faut reconnaître. Donc on demande une révision et donc on a un raisonnement, une approche globale au lieu d'avoir une approche par secteur.
Alors ça concerne également les logements, cette fois-ci avec l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Alors moi je pensais que cette loi était passée et que voilà...
Oui, la loi elle est passée au mois de novembre l'année dernière, la loi Elan.
La loi
Elan, oui. Donc ça c'est l'encadrement des loyers. Donc cette loi prévoit que c'est facultatif. Alors que on sait par exemple par l'expérience que des villes comme Paris ou Lille où il y a un encadrement des loyers qui étaient mis en place par les municipalités, malgré tout ça a donné de bons résultats. Donc nous on demande que la loi soit appliquée avec plus de discernement et qu'elle soit plus contraignante en fait pour les communes, même si dans certains secteurs c'est peut-être pas possible, ça peut-être, mais qu'elle soit revue et donc qu'il y ait un engagement plus ferme de l'État, donc pour pouvoir encadrer davantage les loyers.
Et qu'elle soit plus cohérente, selon les endroits dans lesquels on est en France. Alors, on va parler également des sous de la banque, avec la suppression que vous souhaitez des commissions d'intervention. Alors, j'aime bien ce joli terme de commission d'intervention pour dire quand on a un incident bancaire, je ne sais pas, quand on est à découvert, qu'on a des incidents bancaires, et c'est ce qui est pris sur le compte.
Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce que tout le monde a eu dans sa vie généralement un incident bancaire pour une raison diverse, tôt ou tard. Mais toujours est-il que ce sont des sommes très importantes. Ça représente en France 2,8 milliards. d'euros, donc vous voyez, c'est une somme très très conséquente.
Ah oui, chaque année, 2,8 milliards juste en commission d'intervention.
Qui vont aux banques. Et donc, les banques nous disent c'est pour analyser le niveau de solvabilité des clients des banques. Ceci dit, il y a d'autres méthodes. Et en tout état de cause, le travail qui est fait par les banques ne justifie pas des sommes de ce niveau-là. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est la suppression carrément de ces commissions d'intervention. Et donc, la restitution de ces sommes-là aux consommateurs. Ça, c'est la première chose.
Et si on vous répond que sans commission d'intervention, c'est-à-dire que si on ne facture rien à quelqu'un qui a des problèmes dans son compte, ben, tout le monde va vouloir faire,
faire ce qu'il veut. Non, mais on demande des mesures. Ça, c'est une mesure sanction. Ça veut dire que on a l'impression que c'est fait pour punir, hein, pour sévir, pour punir celui qui se comporte mal. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui règle le problème. Parce que généralement, ceux qui se trouvent pénalisés comme ça, c'est des gens qui sont en situation financière difficile. Et donc, ces commissions, au lieu de les aider, au contraire, ça les enfonce un peu plus. Nous, ce qu'on demande, c'est que les banques ont une connaissance très fine des niveaux de recettes et de la situation de leurs clients. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des actions pédagogiques qui soient menées par les banques. Par exemple, d'ouvrir certains comptes adaptés à certains clients, des clients en difficulté, qu'ils aient des comptes qui ne permettent pas, par exemple, de faire des découvertes. Ça existe, ça.
Ça existe,
oui. Ou des utilisations de cartes avec des accès plus ou moins adaptés. Voilà, ça. Et puis qu'il y ait également ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est-à-dire qu'on explique aux gens certaines choses, certaines pratiques, hein, de façon à ce qu'il y ait moins de Français qui se retrouvent dans des situations difficiles. Voilà.
Alors donc ça, c'était sur les commissions d'intervention. Vous proposez également de faciliter le changement de banque. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Pour l'instant.
Non, c'est très très difficile. Alors que, contrairement aux autres pays européens où les gens changent assez facilement de banque. Alors pourquoi est-ce qu'on demande cela? Parce que on pense que la concurrence, dès l'instant où elle est faite réglementairement et honnêtement, elle se fait au bénéfice des consommateurs et elle contribue à baisser les prix. C'est ce que l'on a vu par exemple dans le domaine des télécommunications avec l'arrivée de Free il y a quelques années. Dès que Free est arrivé, il y a eu tout de suite baisse des tarifs, des prix. Hein, voilà. Et donc là, ce serait la même chose. Alors, pour que ce soit plus facile pour les Français, ce qu'on demande, c'est la portabilité du numéro, c'est-à-dire qu'on pourrait changer de banque tout en gardant son numéro de compte.
On garde ses coordonnées bancaires.
Voilà, on garde ses coordonnées bancaires. Et comme ça, ce serait beaucoup plus facile et on pense que cette mesure contribuerait, enfin, d'après toutes les études qui ont été publiées, ça contribuerait à faire baisser les frais bancaires des Français.
Ce serait une économie, hein, selon les calculs du FC que choisir, de plus d'un milliard d'euros.
Oui.
Donc, les banques pourraient faire gagner... Si on prend les commissions d'intervention et les changements de banque, ça fait près de 4 milliards d'euros. C'est pas mal. Hein.
C'est très important. Oui.
Ça rajoute un peu de beurre dans les épinards. On va enchaîner avec justement les assurances, maintenant les mutuelles, dont vous voulez également faciliter le changement.
Alors oui,
dans la même logique que les changements de banque.
C'est toujours les mêmes choses. C'est que les consommateurs aient le plus d'informations possible, que ce soit transparent pour les consommateurs et qu'ils puissent choisir. Leur prestataire, leur mutuelle, par exemple, là, en l'occurrence, en toute connaissance de cause. Parce que souvent, bon, la mutuelle, ils l'ont eu lorsqu'ils étaient au travail, hein, généralement. Bon, ça a été tout à fait au début, quand ils ont commencé à s'engager dans la vie. Et force est de constater qu'il y a des mutuelles qui sont nettement plus chères que d'autres, ou pour des prestations vraiment moins intéressantes. Mais il est très difficile de s'y retrouver parce que, bon, il y a des mutuelles qui ont des centres de santé, par exemple, ou des centres médicaux. Et donc, nous, ce que l'on demande, c'est que ce soit mis clairement sur la table. On peut le consulter par Internet, par exemple, et que les Français puissent choisir leur mutuelle à toute connaissance de cause.
C'est le cas, en tout cas, pour l'instant. On peut changer de mutuelle.
On peut, changer. Juste, on peut changer.
Je crois qu'on signe pour un an, et puis après,
on peut,
c'est renouvelable, et puis... Voilà. On va jeter un coup d'œil maintenant sur la santé, un autre des thèmes que, puisque on parlait à l'instant des mutuelles, mais qui fait cette fois-ci référence aux dépassements d'honoraires.
Voilà, alors les dépassements d'honoraires, donc il y a déjà eu des actions cotées conduites par les pouvoirs publics ces dernières années pour limiter donc les dépassements d'honoraires. On a vu ça par exemple dans le secteur 1 et 2 pour les généralistes, donc il y a eu des accords qui ont été signés donc pour faire en sorte que les généralistes restent sur le secteur 1, c'est-à-dire à 25 euros actuellement. Nous, ce que l'on demande, c'est que ce soit la même mesure qui soit appliquée pour les spécialistes, hein, parce qu'on voit des sommes un peu extravagantes, hein, qui frôlent les 100 euros la consultation.
Parce qu'il n'y a pas de limite officielle.
Non, il n'y a pas de limite officielle, donc voilà. Et donc, de façon à ce que ça nous paraît aberrant, et puis... Une fois aussi, c'est que les Français puissent avoir accès à la santé. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a des difficultés financières ne peut pas mettre des sommes comme ça auprès d'un spécialiste. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc on demande la même mesure, mais qui soit plus contraignante que ce qui existe actuellement.
Mmh. Alors un petit mot rapide sur le permis de conduire.
Oui, permis de conduire. Vous savez, donc, bon, tout le monde dit que, toutes les études, que c'est 1800 euros à peu près pour un jeune. Ce qui est une somme très importante quand on débute dans la vie. Là aussi, il y a des pistes pour réduire cela. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que au moins tous les examens de code, ça s'appelle le code, puissent être faits en ligne, hein, par Internet, de façon à diminuer les coûts.
Ouais. Il y a une explosion des prix du permis de conduire. Quand j'ai passé le permis de conduire dans la fin des années 90, c'était aux alentours, si je mets 100 euros, de 700 euros. Ouais, voilà. Ouais. Donc vous voyez l'inflation.
Non, mais tout à fait, oui.
D'accord, donc ça c'était pour les permis de conduire, bah, puisqu'on est dans les voitures. Vous proposez également de libéraliser la vente de pièces de carrosserie, voilà, donc ça, les pièces constructeurs.
Ouais, ça c'est une demande très ancienne et on continue de se battre et j'espère qu'on y arrivera. Lorsque on veut faire réparer sa voiture, par exemple changer un pare-choc par exemple, les concessionnaires, les garagistes, voilà, ont l'obligation en France de s'approvisionner auprès du constructeur. Et ça contribue fortement à augmenter le coût. Hein. Quand on fait réparer sa voiture, il suffit de regarder le prix de la pièce, il est quand même très élevé par rapport à ce qui existe dans d'autres pays européens. Hein. Par exemple, les pays voisins, l'Italie, par exemple, c'est nettement moins cher. Et donc, on demande que ce monopole soit aboli, que les constructeurs puissent s'approvisionner partout sur le marché.
Bah, j'ai une question justement par rapport à cette libéralisation de la vente des pièces de carrosserie. Avec la dernière proposition que vous faites, celle d'allonger la durée de garantie légale. Et sur les deux points, celle que vous venez de traiter et puis celui que vous allez traiter sur la garantie des objets qu'on va acheter, est-ce que ça ne va pas faire augmenter le prix ? Parce que là, vous proposez d'allonger la durée de garantie légale de certains produits. Ils sont de 2 ans. Alors, vous voulez les agrandir de combien de... Voilà, vous voulez l'allonger de combien d'années ? De 3 ans, 5 ans ?
Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 5 ans parce que dans la pratique, on s'aperçoit que quand on achète un appareil électroménager, par exemple, la garantie légale, elle est de 2 ans actuellement et souvent, le vendeur, il propose 3 ans en plus.
Payant,
tout à fait. Et donc, s'il propose 3 ans en plus, on se dit c'est qu'il pense que l'appareil fera moins être 3 ans de plus, hein. Donc, je pense que 5 ans, on pourrait le faire, mais sans payer. Hein. Et donc, les constructeurs pourraient s'engager sur ce point. Hein. Donc, parce que les appareils ont la capacité. Ça suppose peut-être dans certains cas que l'appareil soit bien fait, bien conçu, bien fabriqué, avec des pièces qui tombent pas en panne, qui risquent pas de tomber en panne au cours des 5 ans, par exemple. Mais ça, un constructeur, il est capable de le faire. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. Ça pose peut-être un petit problème, c'est dans le cadre de la réglementation européenne, mais ça, je pense qu'on en reparlera une autre fois.
Et parce que la réglementation européenne, pour l'instant, c'est 2 ans.
Ouais,
donc, il faut
rentrer
une uniformisation, c'est compliqué à changer. Et puis, il y a peut-être des constructeurs qui vont dire, des fabricants, puisqu'on nous oblige à avoir 5 ans de garantie, nous, on va communiquer en disant que 5 ans de garantie, on met des matériaux plus solides, donc on va vendre plus cher nos...
Ouais, mais c'est la concurrence. Après, c'est normal, la concurrence a fait baisser les prix.
Vous disiez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, Philippe Fleuret, qu'il y avait des propositions un peu polémiques, qui avaient fait polémique et qui avaient déjà fait réagir certains. Bon, je suppose celle-là déjà.
Oui, celle-là déjà. Il y a l'encadrement des loyers aussi, parce que il y a certaines communes où le foncier est vraiment cher, et donc c'est vrai que ce que l'on nous dit, c'est que les communes où le foncier est très cher, le promoteur qui investit, il veut avoir un retour sur son investissement, et donc ça contribue à avoir des loyers élevés. Et que si on encadre les loyers dans ces communes-là, le promoteur, il n'ira pas, et que donc il n'y aura pas de voilà.
Alors pour le moment, sur le site internet que choisir. .org, la contribution a recueilli près de 70 000 signatures.
Ouais.
Et votre objectif, c'est 100 000, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va même dépasser. Très sincèrement, je pense qu'on va dépasser.
Et qu'est-ce que vous allez faire de ces propositions alors ? Une fois que vous aurez un classement et que vous aurez vraiment les trois.
Donc, on va recenser toutes les demandes. On va sélectionner les trois plus importantes, celles qui ont été plus de votes. Voilà. Et puis, donc, on portera ces trois propositions au gouvernement, hein, dans le cadre du grand débat, et donc en demandant, en disant, nous on a eu 100 000 ou plus signataires qui demandent ça, donc on vous demande d'en tenir compte dans les propositions futures.
Merci Philippe Fleuret d'être venu présenter ces 12 propositions de l'UFC Que Choisir. Alors je rappelle que vous, quotidiennement, en dehors de ce que vous avez proposé là, vous aidez les consommateurs à notamment lors des litiges qu'ils peuvent avoir avec des distributeurs, avec des bailleurs, etc. Alors comment on fait pour venir vous voir concrètement pour vous contacter ?
Il y a plusieurs solutions. Soit c'est de venir nous voir à la permanence
à Versailles,
5 impasse des gendarmes, soit de nous saisir par internet à contact@versaillesufcquechoisir.fr ou nous téléphoner. Enfin, il y a plusieurs façons de venir nous voir.
Et puis vous avez le site national
et le site national aussi.
Quechoisir.org.
On peut nous saisir aussi par l'intermédiaire du site national, oui.
Merci Philippe Fleuret, au mois
prochain.
Merci,
bonne journée.
L'UFC Que Choisir, à votre service. Une émission mensuelle d'information pour les consommateurs.
Alors, l'UFC Que Choisir, c'est
non,
une association
c'est
de consommateurs.
C'est pour ça qu'au niveau de l'UFC Que Choisir,
alors,
au niveau
généralement, ces arnaques se déroulent de la façon suivante. Ouais. Nous, ce que l'on constate à travers les litiges...
Parle aujourd'hui de la téléphonie mobile.
UFC Que Choisir, à votre service.
Les mardis à 17h, mercredi 13h30, jeudi 13h30.
Pour les litiges...
L'offre illimitée n'existe pas. Il y a toujours des limites.
Agence de voyage, banque, relations locataires, propriétaires, etc., etc.
UFC Que Choisir, à votre service. Sur Marmite FM 88.4.